Mais la tentation, il faut en être maître. Hein. Donc quand on en est sujet, on n'en est pas spécialiste, hein. On n'est plus spécialiste. C'est un petit peu notre pauvreté justement, c'est ça, c'est que on voudrait bien être maître de la tentation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation et justement on n'en est pas maître. Et donc pour savoir un petit peu ce que c'est que la tentation, si on savait, vous voyez, si on savait vraiment ce que c'était que la tentation, eh ben on en serait maître. Et oui, bien sûr, on appelle ça le mystère d'iniquité. Hein. Donc, c'est un. Alors, il faut petit à petit comprendre que dans la tentation, il y a beaucoup de choses qui sont en tout cas. Qui sont. C'est très complexe, en fait. C'est pas simple du tout, la tentation. C'est pas du tout simple. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. On a vu que dans la tentation, il y avait. Dans notre lutte contre la tentation, elle était multiforme. Pourquoi ? Parce que les origines, les voies d'accès, j'allais dire, du tentateur, sont tellement nombreuses, tellement diverses. Les séquelles du péché originel, les séquelles du syndrome collectif, vous voyez, les séquelles donc, du péché collectif des hommes, de ceux qui nous entourent, les conséquences, au fond, de toutes les fautes personnelles qui ont été commises jusque-là. Toutes les conséquences de l'atavisme de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, nos racines. Toutes nos fautes personnelles, nos propres défaillances, les manières dont nous avons géré le pardon ou la rémission des fautes que nous avons commises personnellement. Vous voyez, si une faute, si on a demandé pardon radicalement, eh bien, c'est évident que ça ne va pas engendrer dans notre descendance, dans nos proches et dans notre cœur aussi, une foule de voies de tentation ultérieures. Bon. Donc il y a aussi la tentation de Jésus. Pas oublier que par le baptême, nous recevons l'attaque d'une tentation très particulière, qui est la tentation que Jésus a eu à subir. Et donc quand nous recevons le baptême, nous recevons donc encore des sources de chute supplémentaires. Hein, parce que quand nous recevons le baptême, eh ben, c'est une participation à la croix de Jésus. Celui qui ne reçoit pas le baptême, et Jésus a été tenté. Donc il y a les tentations du Christ aussi. Les tentations du Christ, donc quand Satan veut tenter Jésus lui-même, eh bien, vous voyez, c'est dit explicitement dans l'Écriture que Satan veut tenter le Jésus. Jésus est tenté, Jésus a été tenté, je veux dire. C'est pas... Alors ça, ce serait vraiment très beau d'essayer de découvrir. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs. Ce serait peut-être ça, au fond, la clé. Pour nous, du mystère de la tentation, hein. Et puis, il y a enfin, évidemment, la tentation finale. La tentation finale, la tentation... Alors, vous voyez, donc il y a toutes sortes de... C'est les trois grandes tentations, ça. Hein. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. La tentation qui surgit des origines. Vous voyez. La tentation qui vient du péché originel. La tentation... Enfin, alors là, on est, j'allais dire... très très réceptif, ça, pour pas dire totalement réceptif, n'est-ce pas ? Au séquel du péché originel, ça c'est évident, hein, évident. Bon, la tentation chrétienne, la tentation Jésus qui veut tenter, Satan qui veut tenter Jésus, et j'allais dire c'est presque son principal, parce que la tentation originelle, il a réussi, c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc, il ne s'occupe plus. Il ne s'occupe plus de cette tentation-là, Satan. Donc, il est entièrement mobilisé sur son travail. Son travail principal, ça, c'est de tenter le Christ. Alors, le Christ, il est présent dans le temps, à travers ses membres. il est au ciel dans la résurrection, on ne peut pas atteindre Jésus. Satan ne peut pas atteindre le Christ. Donc il ne lui reste plus qu'à atteindre le Christ dans le temps. Là où il est encore présent, là où encore il peut l'atteindre. Il peut l'atteindre dans ses membres. Et donc il va falloir que Jésus souffre à travers ses membres cette tentation. Et puis enfin, donc la tentation finale. La tentation, le fameux mystère d'iniquité. C'est la troisième tentation, la méta-tentation. C'est celle de l'Apocalypse, voyez. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est peut-être, c'est pas parce qu'on est totalement plongé par grâce, par préservation et par dans le Christ que c'est fini, voyez. Non. Il y a la fameuse dernière. La fameuse méta-tentation, et elle est liée bien sûr au retour du Christ. Elle est liée au retour du Christ, il faudra voir cette tentation, ce messianisme temporel. Et puis au fond, ce qui permettrait, moi j'aimerais bien regarder aussi cela. Ce qui permettrait de regarder, au fond, ce qui fait l'unité entre tout ce mystère de la tentation, ce repérage de la tentation. Parce que quand on s'adresse à des forces ennemies, il vaut mieux connaître l'ennemi. Vous savez, c'est l'intérêt des services de renseignement. Alors, cette année, lundi matin, service de renseignement. Ça va être la CIA de la tentation. Ah, ça va être merveilleux, ce temps de repérage. Il faut qu'on puisse mettre des écoutes téléphoniques chez l'ennemi, vous voyez. Des écoutes téléphoniques, c'est merveilleux ça. Pour savoir que. Pour repérer qu'est-ce qu'il veut. Et donc, il faut savoir quelle forme cette tentation a dans le monde angélique. Ça, les écoutes dans le milieu ennemi. Et donc, c'est pour ça que cette année, on aura une petite. On aura, par différence avec les autres années du lundi, on va être obligé de faire un peu de théologie, n'est-ce pas? Et donc, on va regarder la théologie scientifique de saint Thomas pour savoir comment fonctionne un ange déchu. Ah, intéressant ça. Un ange déchu. Un homme déchu, on sait très bien comment ça fonctionne, puisque l'homme déchu, c'est nous. Et ça, j'aime beaucoup, savoir que je suis un homme déchu. Un chrétien, c'est un homme déchu. C'est ça, c'est un homme déchu. Jésus, c'est un homme déchu. Jésus, c'est ça, il est rentré dans la déchéance, voyez, il s'est fait pécher pour nous. Et jusque dans la boue de la pauvreté humaine, incapable, j'allais dire, de s'en sortir sans l'intervention de la volonté du Père. Et la volonté du Père a été jusqu'au bout de l'amour des pécheurs, puisqu'il n'a pas immédiatement rattrapé son fils. Non, non, il a fait aller son fils jusqu'au bout de la dérédiction. Il a fait ça pour nous, le Père. C'est fou. En train de deuxième semaine, vous le trouvez dans l'office des lectures, vous savez que on lit les psaumes, l'aude, vêpres, puis on a l'office de matine. Et donc ce texte que l'Église a fait lire sur toute la terre, en Chine, au Japon, en Corée, en France aussi, et un petit peu partout, ce texte, j'ai trouvé très beau ce texte. Et puis je trouve que ça vaut la peine, de temps en temps, de savoir le genre, si vous voulez, de textes qui sont lus à matine, dans les couvents, mais aussi dans les familles chrétiennes, puisque une famille chrétienne dit l'office. Si elle est catholique, elle dit l'office. Elle essaie de repérer un ou deux offices, ou un seul, peut-être, d'accord, si vous voulez. Elle ne dit pas les sept offices de la journée de tous les jours, mais un. C'est la tradition, ça. La tradition catholique, c'est ça, c'est que une famille chrétienne, eh ben, elle fait vêpres. Ben, c'est vrai que depuis 40 ans, c'est parti, ça. C'est pas du tout que le concile a dit, les familles ne doivent plus le faire. Vous ne verrez aucun texte là-dessus. Non, non, c'est fini, vous ne devez plus dire vêpres. Non, non. C'est dit explicitement dans le concile, au contraire, que les familles catholiques, dans leur sacerdoce royal, doivent prendre en main elles-mêmes, en tant que famille domestique, la prière de l'Église. C'est-à-dire l'office. Ouais, c'est là qu'on voit qu'on est un peu pauvre. Hein. Alors, j'ai beaucoup aimé ce texte, puis je me suis dit, tiens, ça, il faut absolument que je le relise, que je le communique. En même temps, c'est une homélie du deuxième siècle, donc vous voyez que c'était pendant les persécutions, c'était d'après Robinson, Brown, etc., l'époque où l'évangile n'avait pas encore été écrit, n'est-ce pas, révélé, ni les épîtres, puisque ça aurait été cette communauté-là qui aurait été l'auteur du Nouveau Testament, hein, soi-disant. Évidemment, cette communauté-là était très, très, très extraordinaire, hein, il faut bien le dire, communauté chrétienne. Deuxième siècle, c'est la troisième génération, vous voyez, hein, c'est celle de Saint-Irénée, il me semble. Hein, fondateur de l'église des Gaules, primat des Gaules, envoyé par un disciple de Jean, Polycarpe. Jean, celui qui est Dieu préfère. Polycarpe, du coup, ça porte des fruits. Et enfin, Irénée, c'est la paix. Vous voyez? La France, vous voyez, c'est la troisième génération. Alors, c'est une homélie. Moi, je trouve ça très beau, ces textes-là. C'est pour vous donner envie, un petit peu. Est-ce que ce n'est pas justement une des moyens, vous voyez, de lutter contre la tentation, c'est de se mettre vraiment dans l'unité de l'Église? Et l'unité de l'Église est dans sa prière, hein, sa prière concrète, hein, sa prière communautaire, sa prière invisible, puisque c'est invisiblement on fait une seule prière, au même moment. On a le même psaume, le même texte. Ça, l'office est très beau. Et ensemble, on donne l'autorisation au Christ d'exprimer au Père cette prière. Vous voyez, c'est lié au mystère de la tentation du Christ, parce que. Puisque Satan s'attaque à l'unité de l'Église, c'est ça la tentation. C'est sous ce mode-là que prend la tentation de Jésus au désert. Satan essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette prière de l'Église, qu'il n'y ait pas Jésus dans son corps mystique, concrètement, si vous voulez, au niveau de l'expression. Moi, je crois à ça. Que le fruit, vous savez, les fruits du Saint-Esprit sont l'unité, la joie, la paix. Oui. Les fruits du Saint-Esprit, vous les connaissez, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, c'est Polycarpe, hein? Deuxième génération. Donc, première tentation, c'est péché originel, Jean, il reçoit l'Immaculée Conception. Deuxième tentation, le Christ, c'est tous les fruits. C'est l'unité, la paix, la joie. Et puis la troisième, c'est Irénée, vous voyez. Irénée, c'est la Gaule. C'est-à-dire, c'est le temps des nations. Le temps des nations. Il doit obtenir la conversion d'Israël, le retour du Christ. C'est l'espérance. L'espérance, dans l'espérance, on ne doit pas se tromper, vous voyez. Bon, alors donc, le Seigneur a dit. Sans cesse, mon nom est blasphémé parmi les nations. Et encore, malheureux celui qui fait blasphémer mon nom. Celui qui fait blasphémer mon nom. En quoi consiste ce blasphème? En ce que vous ne faites pas ma volonté. En effet, lorsque les païens entendent de notre bouche les paroles de Dieu, ils admirent leur beauté, leur noblesse. C'est très vrai. expérience, dans l'admiration de voir le message chrétien. Vous savez que lorsque vous, en toute simplicité, si vous n'êtes pas mystico-dingo, c'est-à-dire si vous ne mettez pas sur des trucs extérieurs à la foi, mais que vous dites tout simplement la noblesse de la paix, du pardon, de la compréhension, de l'unité, de tous les fruits. Eh bien, on vous respecte. Les païens sont dans l'admiration. Et ça, c'est vrai parce que c'est très beau. C'est très, très grand. Bon, si on commence à rentrer dans le mystico-dingo, alors là, ils rigolent. Ils disent, ça, c'est hôpital psychiatrique. Ils ne respectent pas, ils ont raison. Mais dès qu'il s'agit de l'amour, de la délicatesse, il n'y a aucune exaspération. C'est au contraire, ça force l'admiration. Celui qui est tout donné là, oui, Mère Teresa, formidable. Ça force l'admiration, qu'est-ce que vous voulez. On le veuille ou non, ça, c'est... elle ne perd pas son temps. Hein. À mille trucs, hein. Non, non. Va à l'essentiel, l'amour, c'est tout. Et la prière. Mais ça, c'est pour elle. Elle ne va pas embêter les gens avec ça. Hein. Elle prie, ça oui. Mais ça, c'est secret. L'arcane. Voyez, à l'époque du IIe siècle, les premiers chrétiens qui étaient tout proches de Jésus et des apôtres avaient le sens de l'arcane, le sens du secret. Aujourd'hui, on est une période de télévision et ce qu'il y a de plus secret, on le jette au bord. Le plus intime. Le nom de Jésus ne doit pas être prononcé. Parce que Satan est là. Mais on doit prononcer le nom de l'amour. Voyez, à ceux qui sont pauvres. À notre propre pauvreté. Voyez, qu'est-ce qu'on prononce le nom de l'amour à notre propre pauvreté? Ça s'appelle l'humilité. D'aimer notre propre pauvreté, c'est l'humilité. Et quand on aime notre propre pauvreté, on ne fait pas de leçon. En quoi consiste ce blasphème? En ce que vous ne faites pas ma volonté. En effet, lorsque les païens entendent de notre bouche les paroles de Dieu, ils admirent leur beauté et leur noblesse. Mais ensuite, lorsqu'ils découvrent que notre conduite n'est pas en accord avec les paroles que nous disons, ils passent au blasphème en disant qu'il n'y a là que fable et folie. Donc le blasphème vient des chrétiens. Les chrétiens, source du blasphème. C'est pas eux qui blasphèment. Mais ils sont la source. C'est extraordinaire de comprendre ça. Ils sont la source de l'apparente victoire du mal. Ah, leur corps défendant, ça c'est certain. Ils disent, oh, il a blasphémé. Oh, il est Dieu. Hé, dis donc. Attention. Vous voyez, c'est ça, c'est des... J'ai beaucoup aimé ce passage. Beaucoup aimé ce passage, parce que ça, vous voyez, ça, il y a quelque chose... En plus, ça rejoint tout à fait le problème de la tentation. On n'est pas du tout en dehors du sujet, parce que vous voyez bien, par exemple, que le dragon à 7 têtes et à 10 cornes n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la pensée occidentale chrétienne. C'est une réaction violente contre la pensée occidentale chrétienne. Des gens qui disent, on est chrétien, on va traduire en langage humain ce qui vient de la foi. Ça, c'est la réaction violente. Ils disent, non, c'est pas honnête. Vous voyez, quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, mon fils veut pas faire de philosophie au bac, parce que au bac, c'est le prof de philosophie. Eh bien, il raconte des trucs, alors comme, hein, il raconte des trucs qui n'est pas d'accord. Alors lui, il répond, oui, il y a Dieu, et Dieu, moi, je suis pas d'accord, parce que, alors il mélange. Alors j'ai répondu à la maman. J'ai répondu à la maman, mais quand on est à l'école, hein, quand on est à l'école, si tu fais un devoir de maths, un examen, et que quand tu rends ta copie, c'est un poème de Victor Hugo, tu as zéro. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je rêve ou quoi? Donc, quand je fais la philosophie, je fais pas de la théologie. Croyant, j'accepte pas ce qu'il a dit, prof. Mais on te demande pas d'accepter ou pas accepter, on te demande de travailler. On te demande de travailler. C'est pas une question d'opinion, la philosophie. On te présente une idée et tu dois comprendre comment il en est arrivé là. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Et on te demande pas de la discuter, on te demande de comprendre. On te demande de comprendre ceux qui cherchent la vérité. Oui, mais ils aboutissent à dire que Dieu n'existe pas. Doucement. Pourquoi? Comment est-ce qu'il dit ça? Et comprendre l'intelligence, voyez, lire de l'intérieur. Si tu refuses de faire ça, si tu refuses de faire ça, tu veux après servir dans le monde? Si tu n'es même pas capable de faire les choses, ça pour les choses simples du monde humain. Comment le feras-tu pour avoir l'intelligence de l'écriture? Il faut faire des gammes au départ. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça. Après, tu pourras jouer si tu fais ça, d'accord. Mais c'est ça, vous voyez? Il faut apprendre. Il ne faut pas être. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'était passé. C'est sûr que c'est ce qui s'est passé. C'est là où la tentation. Du diable a réussi quelque chose au moment du Moyen-Âge, de la Renaissance. Le diable a réussi quelque chose. Il a réussi quelque chose de très extraordinaire. Il a eu une première réussite, c'est la naissance par réaction de l'islam. Et la deuxième victoire, c'est la naissance par réaction, celle dont je suis en train de vous parler, de la confusion entre théologie et philosophie. La réaction, ça a été l'athéisme. Et c'est né avec Occam. 14e siècle. Et aujourd'hui, on subit 550 ans, 555 ans de... à peu près. Oui. Ouais. En 1987, c'était 555 ans. C'est extraordinaire, ça. Et la réaction, c'est qu'effectivement, depuis le 14e siècle, du coup, toute la pensée est imprégnée d'athéisme. C'est normal. Et ça, le responsable, hein, c'est les chrétiens. Ça, c'est sûr. La paresse. Le manque d'amour pour la recherche de la vérité. Et puis, la troisième tentation... Nous nous en approchons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup de... Il faut être très attentif, très, très calme, et en même temps, bon, ben, reconnaître, si vous voulez, que ce que dit ici ce prêtre périphériquement ensuite, lorsqu'il découvre que notre conduite n'est pas en accord avec les paroles que nous disons, il passe au blasphème en disant qu'il n'y a là que fable et folie. Donc quand Saint Jean parle du blasphème, vous voyez, il y a sept têtes qui blasphèment, c'est-à-dire qui disent que Dieu n'existe pas. S'il y a de l'athéisme, c'est tout simplement parce que, au fond, nous sommes peut-être complètement en train de succomber à une tentation, tout en proclamant que nous sommes chrétiens, vous voyez. Mais sans s'en rendre compte, c'est ça le propre d'une tentation forte, c'est qu'on ne voit pas qu'on est tombé dedans, n'est-ce pas? Sinon, c'est plus une tentation. Si tu vois que c'est le diable, t'as presque vaincu, quoi, presque déjà. Si dès le départ de la tentation, tu vois que c'est le diable, tu l'enlèves, hein. C'est sûr. Le diable se cache toujours. C'est ça le propre d'une tentation, il se cache. Il est aveugle. En effet, lorsqu'ils nous entendent dire, comme une parole de Dieu, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre si vous aimez ceux qui vous aiment? Mais on vous sera reconnaissant si vous aimez vos ennemis et ceux qui vous haïssent et vous détestent. Oui, lorsqu'ils entendent ces paroles, ils admirent cette bonté extrême. Mais lorsqu'ils voient que nous n'aimons pas ceux qui nous détestent, et même pas ceux qui nous aiment, ils se moquent de nous, et le nom de Dieu est blasphémé. Ainsi donc, mes frères, si nous faisons la volonté de Dieu notre Père, nous appartiendrons à l'Église primordiale. Ça, c'est fort, ça. À l'Église primordiale. Nous appartiendrons à l'Église spirituelle qui fut créée avant le soleil et la lune. Je répète, ça, c'est... Ah là là, page 294 de la Liturgie des Heures, tome 4. Hein. Page 294, vous voyez. Nous appartiendrons à l'Église primordiale, à l'Église spirituelle qui fut créée avant le soleil et la lune. Mais si nous ne faisons pas la volonté du Seigneur, nous relèverons de ce passage de l'Écriture, ma maison est devenue une caverne de bandits. Préférons donc appartenir à l'Église de la vie, afin d'être sauvés. Je ne pense pas en effet que vous l'ignoriez. L'Église vivante, c'est le corps du Christ. Car il est dit dans l'Écriture, Dieu créa l'homme. Il le créa, homme et l'homme, c'est le Christ. La femme, c'est l'Église. Or, les livres des prophètes et les apôtres disent aussi que l'Église n'est pas de ce temps-ci, mais qu'elle vient d'en haut. Elle était spirituelle, comme notre Jésus. Et elle s'est manifestée dans les derniers temps pour nous sauver. L'Église ne devient pas. L'Église est. Ceci est. Or, cette Église qui est spirituel s'est manifesté dans la chair du Christ pour nous montrer que si nous la gardons fidèlement dans notre chair, nous la recevrons dans le Saint-Esprit. Ouais. Oh, ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous sentez, c'est vraiment extraordinaire. Parce que l'Église, c'est le trône de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu, évidemment. Qu'il y ait des serpents, et qu'il y ait des lapins et des oiseaux pour avoir un trône, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Cette Église qui est spirituelle s'est manifestée. Alors, l'Église, c'est la chair du Christ. Quand Marie, le Verbe, s'est incarné, elle a porté l'Église spirituelle. Elle a porté l'Église. Et cette Église-là est répandue dans tout l'univers. Et sacramentalement, elle est présente. Et quand on va chercher la volonté de Dieu en dehors de l'Église, vous voyez, on commence à, on commence déjà à sentir, c'est pas les choses, j'espère. Or, cette Église qui est spirituelle s'est manifestée dans la chair du Christ pour nous montrer que si nous la gardons fidèlement dans notre chair, nous la recevrons dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, évidemment. Bon. Car cette chair est l'image de l'esprit. Nul ne peut, après avoir gâché l'image, participer au modèle. Voilà ce que signifie, mes frères, garder la chair pour participer à l'esprit. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Or, si nous disons que la chair, c'est l'Église, et que l'esprit, c'est le Christ, il s'ensuit donc que outrager la chair, c'est outrager l'Église. C'est évident ça. C'est trop sacré la chair, vous voyez. On ne peut pas jouer avec la chair. On ne peut pas jouer avec l'Église. On ne peut pas. L'Église, c'est nos frères. L'Église, c'est le pape. L'Église, c'est le prêtre de la paroisse. L'Église, c'est celui qui est baptisé. C'est l'Église, c'est celui qui a soif du baptême. Voyez. Celui qui agit ainsi ne participera pas à l'Esprit. À l'Esprit Saint. C'est-à-dire au Christ. Car c'est à une telle vie, à une telle immortalité que la chair peut participer si elle est unie au Saint-Esprit. Et nul ne peut expliquer, nul ne peut dire tout ce que le Seigneur a préparé pour ses choisis. Ah, c'était pas mal, les sermons dans les catacombes. C'est pas mal, vous voyez. Et l'Église primordiale, Dieu créa l'homme. Homme et femme, il le créa. Deux points, il les créa. Et c'est la chair. C'est le mystère de l'homme et de la femme. Et c'est l'Église primordiale, ça. Donc c'est pour ça que on va essayer de revenir. Vous savez, c'est bien de savoir que dans l'Église primitive, justement, l'Église des persécutions, l'Église des apôtres, ils avaient ce sens que l'Église qu'ils étaient en train de faire, c'était la réalité substantielle, ceci est, et corporelle de ce qui se passait dans le sein de la Vierge quand le Verbe s'incarna. Le corps de l'homme, le corps de la femme. Et cette église primordiale, voyez, cette espèce de chair du Fils de l'homme dans le trône de Dieu, l'Immaculée Conception, et qui préside à toute la création, avant la création du monde, ils sont en train de le vivre de manière... Le mystère de l'incarnation n'en est qu'un modèle, et la réalité, c'est l'Église. Ils en avaient conscience de ça. Voyez, et cette Église primordiale, voyez, elle a été donnée, j'allais dire, toute préparée pour être reçue dans l'union du premier homme, de la première femme, pour qu'eux-mêmes puissent recevoir cette Église primordiale, cette Église spirituelle, ce mystère du trône de Dieu, ce mystère de... Et puis, Satan est venu sur l'arbre de vie et puis a essayé d'empêcher que l'amour de l'homme et de la femme puisse recevoir le mystère de l'Église dans le paradis originel. L'Église, ça va jusque-là. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup personnellement que... Bon, j'aime beaucoup quand lui le comprend, bien sûr. Quand je suis face à un évêque, j'aime beaucoup me mettre à genoux devant lui et embrasser l'anneau. Mais je ne force pas parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, donc je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a un pauvre me mettre à genoux, embrasser ses pieds. Mais je fais attention quand même parce que je ne veux pas qu'il croie que je me moque de lui. Et le mystère de l'Église, vous voyez, est un mystère très 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 profond, très très fort. Il faut y avoir un très grand amour pour l'Église, très 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 grand amour. À dire, moi c'est Jésus, Marie, et c'est de la blague ça. Pourquoi séparer ce que Dieu a uni, je veux dire. C'est ce que disait Jeanne d'Arc, vous savez. Quand l'Église, là, était là, l'Église, ben, l'Église était là, elle a dit, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire, Jeanne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous dites là? Donc vous voudriez s'entendre que Jésus, Marie et Dieu, et l'Église qui est devant vous, sont en contradiction? Et Jeanne a répondu, mais l'Église, elle les a montrés comme ça, l'Église et Dieu, c'est tout ça. Pourquoi voulez-vous que je les sépare? Pourquoi voulez-vous les séparer? Pourquoi? Et elle a compris qu'en étant brûlée par l'Église, vous voyez sur le bûcher, c'était Dieu qui la brûlait. Elle ne rugissait pas contre le mystère de l'obéissance. Chrétienne, elle. Elle était chrétienne. Ce que dit l'épouse, ne te prenez pas garde à mon teint basané. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde, c'est le soleil qui m'a brûlée. Lorsqu'intérieurement le Christ est là, eh bien, je porte l'Église. Et l'Église, c'est ma mère, l'Église, c'est moi, l'Église. Il n'y a aucune différence. Et donc, je comprends tout de suite que les voies de Dieu sont impénétrables sur le plan humain. Et qu'il n'y a pas de messianisme temporel qui tienne. Alors, on va quand même relire un petit peu le livre de la Genèse. L'Église primordiale. On l'a déjà lu ensemble, mais on va le relire. On va le relire parce que c'est bien de commencer. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu crée les anges, hein, Dans le principe, c'est-à-dire l'Église primordiale, voyez, dans le trône de Dieu, la grâce, le Saint-Nom, l'impératif d'amour de Dieu et du prochain, dans le principe, vous savez, les six choses qui sont dans le Bereshit. Dans ce Bereshit, c'est-à-dire dans le principe, il y a six choses, ce que disait Moïse. Dans le Bereshit, il y a six choses. Il y a le nom de Dieu, Shem Elohim. Le principe, c'est la présence actuelle et efficace de la présence personnelle de Dieu. Il y a le trône de Dieu, il y a le Saint des Saints, il y a la Torah, il y a le Messie. Et il y a le Beit HaMikdash, le temple du Saint des Saints. L'Église, oui. C'est connu, Moïse disait déjà que l'Église était le Beit HaMikdash. La Torah, l'impératif d'amour de Dieu et du prochain, la Torah, c'est le nom de Dieu, la présence actuelle et efficace, la personnelle de Dieu. Tout ça, c'est le mystère de l'Église, c'est les six facettes de ce que c'est que l'Église. Et c'est dans l'Église que Dieu crée le monde angélique. Dans ce commencement. Et ce commencement, c'est l'Église primordiale. Hein. Ça, c'est très net, hein. Les Juifs ont un très fort sens de ça. C'est que le peuple de Dieu est dans le principe. Et c'est dans le principe que Dieu crée le monde angélique et puis le monde de la terre. Le monde humain. Or, la terre était un chaos, ça c'est sûr. Monde humain. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dès le premier jour, il y a la chute angélique. Tout commence, voyez, dès le premier jour, il y a la chute angélique. Dieu crée la lumière, qui active le diaphane cosmique, l'univers, le monde humain. Il fait la lumière, il est présent, il donne sa lumière, la lumière du Messie. Cette lumière, c'est le Messie, vous savez. Elle est dans le principe. Et il met cette lumière dans le monde angélique, il met cette lumière dans le monde chaotique. Il met, voyez, le souffle dans la fécondité divine et le chaos, j'allais dire, c'est-à-dire le non-commencement de la responsabilité, de la liberté dans l'amour des hommes, n'est pas encore eu le temps de se mettre en marche, qu'il y a la lumière du Messie qui sortent de l'Église primordiale, de par Dieu, voyez, et aussitôt, le ciel associé à la lumière, c'est-à-dire le monde angélique associé à cette lumière du Messie, voit que dans ce nombre angélique, il y en a qui fuient cette lumière de l'Église, cette lumière du Messie, cette lumière du corps, de l'homme et de la femme. Et ça donne les ténèbres. Vous ne voyez pas, Dieu dit que les ténèbres soient et les ténèbres furent. Non, non. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, tout de suite après, Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis après, la phrase d'après, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Vous voyez, il ne crée pas les ténèbres. C'est la lumière. Sous l'effet de la lumière, le ciel, en partie, le monde angélique, tombe. La chute des anges. La chute des anges. Vous voyez, c'est quand même important pour le mystère de la tentation de comprendre pourquoi il y a eu les ténèbres. Hein. On ne peut pas le comprendre en lisant la Bible comme ça. sans la tradition, c'est impossible, vous comprenez bien. Vous lisez au principe, Dieu créa le ciel et la terre, avant le ciel et la terre, ah le ciel, ah ouais, tout ça, ah la terre, d'accord, tu vois. Attends, attends, non, c'est pas ça, Dans le principe c'est le Beit HaMikdash, la Torah, le nom de Dieu, le Messie, le Saint des Saints. C'est vraiment fantastique de comprendre ça, quoi. Que, c'est pour ça que je vous ai lu la manière dont les premiers chrétiens lisaient, c'était connu, l'Église primordiale est dans le principe. C'est à partir du mystère du corps du Christ et de son Église, voyez, qui, elle, ce mystère-là, il est éternellement Dieu, quelque part, voyez. Dès que Dieu décide de créer, c'est la seule chose qui compte pour lui. Dieu crée à partir de la cause finale. C'est le mystère de l'Église que tu as appliqué, des sacrements, la paternité. Le sacrement comme paternité, c'est le sacerdoce. Le sacrement comme sponsalité, c'est l'Eucharistie. Le sacrement comme filiation, c'est la confession. On confesse qu'on est fils. Et qu'on a confiance dans l'amour du Père. Eh oui, c'est sûr. Le sacrement de la fraternité, c'est le baptême. C'est évident, ça. Le sacrement de l'engendrement de l'éternité, c'est le mariage. Le sacrement de la vie. Tellement extraordinaire de comprendre la vocation que nous sommes inscrits dans l'acte créateur de Dieu. C'est bien que dès qu'on est dans l'Église, qu'on fait un acte de foi, une prière, nous sommes présents à l'acte créateur de Dieu dans l'origine. Nous assistons à la création. Bien avant Adam et Ève. C'est ça la noblesse de l'Église, la noblesse du croyant, la noblesse de ceux qui vivent des sacrements. La noblesse de ceux qui font la volonté du Père. Ils sont un, ça, avec l'Église. Le mystère de l'Église, c'est un mystère. C'est-à-dire, vous voyez, on commence à le comprendre. Puisque c'est un mystère. Donc on commence à le comprendre. Mais on ne va jamais finir de comprendre. Dieu dit qu'il y a un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi, Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui sont en dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Tiens, un deuxième firmament. Et il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux de dessous le ciel s'amassent en un seul lieu et apparaissent ce qui est sec. Ah, c'est extraordinaire, la vocation du monde angélique, vous voyez, est distincte de la vocation de l'Église, de la vocation terrestre, de la vocation humaine. Et il en fut ainsi, ce qui était sec, Dieu l'appela terre. Et l'amas des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence. Donc vous voyez, Dieu crée le monde angélique, le monde spirituel, il crée le monde humain, le monde de la vie, le monde, vous voyez, d'en haut et de dessous, de la complémentarité. Vous voyez, le monde, et puis ensuite il dit que la terre produise de la verdure. La verdure, c'est la vie. C'est la première fois qu'on voit de la vie ici, hein, de la vie végétative. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne la grâce, la vie divine. Que la terre produise, et c'est produit par la terre, c'est pas produit par le ciel, vous voyez. La grâce vient de la terre. La grâce vient de l'Église, et l'Église est dans le corps du Christ. De l'herbe portant semence, des arbres fruitiers donnant selon leur espèce des fruits qui ont en eux la semence, leur semence propre sur la terre. Il en fut ainsi, la terre fit sortir de la verdure. Ah, c'est génial! C'est génial! C'est pour ça que je comprends que le démon soit jaloux. Hein, Daimon, c'est génial, Daimon, c'est démoniaque cette histoire, génial. Daimon en grec, ça veut dire génial. Génie, Daimon. Et jaloux, hein. La terre fit sortir de la verdure, de la grâce, vous vous rendez compte. Nous sommes source de grâce dès que nous sommes dans l'obéissance totale au Christ, dès que nous sommes soumis au sacrement. Et Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. La terre fit sortir de la verdure, de l'herbe portant semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, qui ont en eux leur semence, chacun selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Eh oui, ça c'est certain. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament. Des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ah, ça c'est le troisième firmament. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Vous avez entendu parler, Saint Paul y dit, vous savez, à un moment, mais j'étais emporté au. Est-ce que c'était au troisième ciel, au cinquième, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que c'était mon corps, sans mon corps. Vous savez ce que ça veut dire, je suppose. Bon. C'est extraordinaire ça, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit. Vous voyez le troisième firmament, qu'ils servent de signe pour les époques, les jours et les années. Ah, il y a tout un mystère de tentation là aussi, vous voyez. Peut-être qu'une des. C'est ce qu'on dit dans la vie spirituelle. C'est une des tentations suprêmes, c'est une des tentations les plus perfides, enfin bon, en tout cas là où on se fait avoir le plus facilement, c'est sur la question du temps. Ah, d'accord, on a raison, c'est de la sainteté, hein, mais c'est pas le temps, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et c'est sûr. Que je dis aux fiancés avant le mariage. Vous ne consommerez pas avant le jour du mariage. C'est pas le moment. C'est très bien, c'est très beau, c'est excellent, et c'est de l'amour, c'est sain, je dirais même c'est pur, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas le moment. Tout, hein, pour tous les, pour tout, l'heure, vous voyez. Cette question de l'heure, c'est tellement important, vous voyez. Oh là 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 là, c'est pas le moment. Pour l'instant, tu gardes cette révélation, tu la gardes en toi, tranquillement, dans le silence. Oui. Oui. Tu vas pas courir partout en disant aux apôtres, en leur arrachant la barbe, en disant tu vas proclamer que je suis Immaculée Conception, la Sainte Vierge, j'ai attendu 1854 ans. Hein. Alors oui. Tout de même. On est toujours pressé, nous. Le diable est pressé, le diable. Il veut vite discuter. Hein. Et de sortir dehors de l'arbre de vie, vite, 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 dehors du paradis, pressé, pressé. Alors il se tait pas, il se tait pas lui. Hein. Nous, Marie, elle se tait, elle attend. Elle a envie, c'est tout. Et c'est comme ça que l'Église, j'allais dire, glorifie la volonté du Père. Oui, donc on en était là pour séparer jour et la nuit, qui servent de signe pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit. Et aussi, ah ça c'est joli, et aussi les étoiles. Ah, ça me plaît. Je suis aussi là, moi. Moi aussi, j'y suis. Hein, là. Je suis aussi. Et aussi les étoiles. Hein. Là. Il y a le Christ. Là. Il y a l'Immaculée Conception. Et il y a aussi les étoiles. C'est-à-dire ceux qui vivent de l'Immaculée Conception. On l'a vu hier. Et donc, il donne la grâce. Vous voyez, c'est le troisième jour. Il y a le Christ, et il y a Marie. Et il y a ceux qui vivent de l'Immaculée Conception. Voilà, le mystère de l'heure est lié à ça. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider. Ah, la royauté commence là, hein, vous voyez. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Oh, comme c'est intéressant, ça. Oh là là, comme c'est intéressant. Pour séparer le monde angélique, qui est dans la vision béatifique, du monde angélique qui est déchu. Il est impossible de reconnaître un ange déchu d'un ange qui n'est pas déchu. C'est bien impossible. Je vous lirai des textes, si vous voulez. Tant que c'est pas, j'allais dire, le temps de la parousie. Il n'y a qu'au moment de la parousie qu'on pourra. Et c'est dans le temps de la parousie, c'est-à-dire le jour, l'heure du Fils de l'homme, que là, l'Église pourra, et c'est l'Église, hein, qui pourra présider à la séparation. Ces fameux combats eschatologiques annoncés par le Saint-Père pour notre génération, n'est-ce pas? Donc, il faut être attentif à ça. Donc, Dieu, remarquez, Jésus a bien parlé à Jean que cette génération ne passera pas. Donc, c'est quand je dis notre génération, vous voyez, il faut sortir. C'est une génération spirituelle. Être cinglé, je veux dire. Voilà, donc. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, à la surface du firmament du ciel. Alors ça, c'est magnifique, ça. Dans les eaux, alors, du coup, les animaux pullulent, les poissons. Ah, voilà, c'est les saints. Voilà, la sainteté commence. Les poissons, les oiseaux, la contemplation, voyez, le vrai Carmel, voyez, volent au-dessus de la terre, à la surface du firmament du ciel. Vous voyez, c'est à ce moment-là, les saints sont là. L'Église est comme les saints. L'Église de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle sont ensemble. Ils vivent ensemble. C'est ça le filet du pêcheur, les 153 poissons. Oui. Les poissons, ça représente, saint Augustin, il dit bien, ça représente évidemment les saints des derniers temps, vous voyez, ces saints qui vivent déjà de la résurrection. Et pourtant, la résurrection le jugement dernier, le jugement final n'est pas encore là. Vous voyez, c'est seulement le cinquième jour. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et dont les eaux pullulent selon leur espèce et toute la gent ailée selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers ». mais que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, moi. Je me rappelle quand j'étais enfant, on allait pourtant, dans l'Oise, c'était une zone industrielle et tout, hein. C'était des zones industrielles, Creil, hein. J'ai habité Creil pendant, je sais pas combien d'années, hein. Rieux-Angicourt, Creil, tout ça. C'était complètement industriel, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme oiseau? Là, là, on sortait dehors, t'avais des milliers d'oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux. Ça me frappe, même moi dans la campagne, il n'y a pas une habitation à 30 km, je veux dire. Il n'y a pas d'oiseaux. Enfin, il y en a 7, 8, quoi. Il ne reste plus que des pigeons. Effrayant. C'est pas normal, ça. Donc, je veux dire, les oiseaux, hein, les oiseaux, c'est la vie contemplative. C'est incroyable, comme le rythme de la nature est au rythme de l'Église. Vous voyez, c'est extraordinaire, ça. S'il n'y a plus de vie contemplative, les oiseaux disparaissent. Ça, pour moi, ça c'est un signe, ça. La vie contemplative, tout de même, c'est les oiseaux, hein, évidemment. Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi, vous voyez, Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce. Là, on rentre dans le sixième jour. Ah, le sixième jour, donc on est en train d'épuiser le Bereshit. Il y a six choses dans le Bereshit. On arrive à l'épuisement du Bereshit au sixième jour, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit, vous voyez, les reptiles, les monstres, les bêtes sauvages. Ouais, tentation finale, hein, attention, hein, qu'est-ce que c'est que cette tentation finale là? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La victoire sur la tentation. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Zakaru nekeva bara otam bara. Zakaru nekeva otam bara. Ça, faut le savoir, ça. Hein. C'est pas homme et femme, hein. C'est le Vav. Hein. Nekeva. Caractère masculin et caractère féminin. C'est pas homme et femme, c'est pas épouse et épouse. Vous voyez, c'est pas Ishisha, c'est pas. Non, non, c'est Zakar, Zakar ou Nekeva. Zakar, c'est de là que vient Zakari. Hein. Vous voyez, c'est difficile à traduire. C'est pas mâle ou femelle non plus, encore que ça s'en rapproche, mais. Il n'y a pas d'autre mot que de dire masculin et féminin. C'est pas époux-époux, c'est pas homme-femme, c'est pas mâle-femelle, non, non. Masculin et féminin, otam. Voilà. Alors ça c'est parce que la phrase d'avant c'est très important, vous voyez ça, vous allez voir. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa. Alors, à l'image de Dieu, c'est Béchem, je crois. Il le créa, Bara, Bara Elohim. Comment est-ce qu'on dit il le créa? Oto.
Auto.
Oto. Il le créa. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa, il le créa, masculin et féminin, deux points, il les créa. Dans la traduction, je voyais que de la Bible d'Hostie, ils mettent ils mettent comme ça, ils mettent différemment. Ils mettent Dieu créa l'homme à son image, virgule. D'où est-ce qu'il sort cette virgule? D'où est-ce qu'il sort cette virgule? À l'image de Dieu. Ah, oh, ben c'est dégoûtant, pourquoi est-ce qu'il met ça? À l'image de Dieu, il le créa, point virgule. Mais d'où est-ce que ça n'existe pas, le point virgule, le point virgule, la virgule, point virgule. Et où est la ressemblance là-dedans? Non, mais je rêve ou quoi? Pas de ressemblance. Bien sûr, nous sommes sauvés. Alors, donc, à l'image de Dieu, il le créa. Zakar ou Nekeva, mâle et femelle, il les créa. Vous voyez? Non, pas du tout, vous voyez? Donc, Dieu créa l'homme à son image. Alors, certaines traductions disent, moi je dirais, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après, il le créa. Masculin ou féminin, il les créa. Pour ça, vous m'avez souvent entendu dire, homme et femme, il le créa. C'est au singulier. Il les créa. Mais on est quand même deux, trois, on ne sait pas trop. Il y a trois baras. Là, dans ce il les créa, il y en a combien? Il y en a deux ou un ou... Il y en a trois, là. C'est au tam, ils sont trois. Il y a l'homme, la femme, et ce qui procède de l'unité des deux. Comme il y a le Père, le Fils, puis il y a le Saint-Esprit, je veux dire. Ah, Saint-Esprit, je vois pas. Ben, d'accord. Et tout le discours du Saint-Père, vous voyez, sur le commentaire du livre de la Genèse, c'est ça. C'est se base là-dessus, vous voyez.
Alors, Jérusalem, ils disent. Non, mais ils disent la ressemblance quand même.
Oui, ah, vas-y, lis-moi pour Jérusalem. Dis-moi, lis-le, lis-le.
L'homme à notre image, comme notre ressemblance.
Oui, et après?
Et qu'il domine sur les poissons.
Ah non, non, oui.
La mer,
oui.
Les eaux du ciel.
Oui. Non, c'est après, c'est après. Verset 27. Oui,
à
l'image de
Dieu,
Dieu,
il le créa.
Oui, d'accord.
Homme et femme, il les créa.
Oui, c'est ça. Vous voyez, donc c'est la ponctuation qui ne va pas. Bon, donc continuons. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Vous voyez, nous venons de lire dans le sermon tout à l'heure. Ce que c'était cette création de l'homme et de la femme, c'est le mystère du Christ et de l'Église. C'est l'unité du Christ et de l'Église, et l'unité finale du Christ et de l'Église, avec sa fécondité finale sur la terre et dans le ciel. Et donc c'est la Jérusalem céleste qui est ici écrite, voyez. Donc, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout être vivant qui rampe sur la terre. C'est une lumière fulgurante sur ce que c'est que le sacrement du Christ et de l'Église. Hein? Une lumière fulgurante sur le sacrement de mariage, hein? Sur le sacrement du sacerdoce, sur le sacrement du baptême, sur le sacrement de l'Eucharistie, sur le sacrement de la confession, parce qu'on confesse ce qu'on est. Je suis ton épouse, je suis ton époux. Hein? Dès qu'il y a un sacrement, on retrouve l'identité éternelle. Donc il faut vivre des sacrements. Je suis, vous voyez, il y a des « je suis » qu'il faudra trouver. Jésus, il a dit « je suis la porte ». Le Fils de Dieu. Et nous, c'est à travers les sacrements. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Alors là, on est en dehors de la tentation. C'est beau, ça. Qui a envie de la Jérusalem céleste, hein, enfin, qui a envie de la substance même de l'Église. Hein. Donc, Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence, cela vous servira de nourriture. Et oui, tout à fait, l'Eucharistie et la grâce qui sont la vie divine, notre nourriture, et à toute bête sauvage, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, donc à tous les saints de la terre qui a en lui l'âme vivante, je donne toute herbe verte en nourriture. La grâce, la grâce. Grâce sur grâce. Et il en fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ah, et si sans consommer, vous voyez, la création est consommée, alors donc Dieu peut enfin trouver sa création, se retrouver dans sa création. La création peut se retrouver en son Dieu, dans la très sainte Trinité, vous voyez. L'Église peut enfin, j'allais dire, être elle-même dans le corps, dans notre chair. Et notre corps peut être le temple du Saint-Esprit, le Beit HaMikdash, le Saint des Saints, le trône du Saint-Esprit, le lieu de la fulgurante fécondité de l'Immaculée Conception, le fruit portant semence. Là, portant semence, c'est extraordinaire cette expression dans la surface. Tout arbre qui a en lui le fruit d'arbre portant semence. L'arbre portant semence. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? La croix portant semence, l'Immaculée Conception. Ainsi donc furent achevés le ciel et la terre. Donc vous voyez, la création n'est pas terminée. La création du monde angélique n'est pas terminée, la création du monde humain n'est pas terminée. Ça dépend de l'Église, c'est l'Église qui préside à l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu acheva le septième jour le travail qu'il avait fait et il chôma. Le septième jour, après tout le travail qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, Dieu avait chômé après tout le travail qu'il avait fait en créant. Telle fut la genèse du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Oui. Et alors, c'est donc sur ce fond de création, vous voyez, sur ce fond de grâce, sur ce fond d'unité, que le chapitre 2 va montrer comment la tentation va essayer de pénétrer chapitre 2 à travers, puisque tout est dit par la parole de Dieu, et la parole de Dieu réalise ce qu'elle signifie de manière infaillible, vous voyez, irrésistible. Alors il ne reste plus qu'un seul moyen pour le démon de tenter, c'est par le geste. On ne peut plus le faire par la parole. Alors la tentation se fera par le geste. Le démon va venir nous séduire à travers des bouleversements intérieurs, des émotions, des gestes. Le sourire du ciel sera la première tentation, le sourire de l'ange. Et la femme sera sensible au sourire, un sourire qui est génial, très beau, très profond. Il n'y a rien de plus profond le trône de la lumière de Dieu. Si en plus il se met à sourire, c'est-à-dire qu'il met de la bonté, de la compassion et de la splendeur, alors la femme, vous voyez, va être remuée. Et la création, ce récit numéro, deuxième récit de la création, chapitre 2, je veux dire, est un récit qui veut montrer comment le démon essaie de pénétrer. Le démon essaie de pénétrer par le geste. Et c'est pour ça que Dieu va associer à sa création par la parole une création par le geste. Sa création va être enveloppée de l'amour. Donc la création part du côté de l'amour, c'est Dieu qui prend des gestes de chirurgien, des gestes de potier pour fabriquer l'homme et la femme. Et en même temps, c'est à l'intérieur de cet amour de Dieu. Satan ne peut pas s'attaquer à la lumière. Il est lui-même lumière. Donc il va s'attaquer à l'amour. Et c'est dans le deuxième récit qu'on va voir la tentation. Mais en même temps, la grandeur de l'amour de Dieu dans l'Église. Et une fois que nous avons trouvé l'unité, c'est pour ça qu'on dit toujours, si on veut se mettre au fond en dehors de toutes les tentations, il faut d'abord sauver l'unité. Et ça ne peut se faire que si on est, au fond, on laisse passer l'autre devant. Celui que tu as mis là, proche de nous. Il faut toujours sauver l'unité. Parce que l'Église, c'est l'unité par la lumière, par la parole de Dieu. Premier récit qu'on vient de lire. L'Église, c'est l'unité profonde de l'amour. Et on va voir, donc on n'a pas eu le temps, mais ce n'est pas grave. On va voir le récit de la tentation, de la tentation, comment le démon rentre en nous, par les émotions, par les suggestions, etc. Par l'imaginaire, par l'intelligence, par la discussion, par le bruit.